Chapitre 6. Je suis tombée amoureuse à l'âge de 8 ans. Pas comme vous croyez. J'étais dans l'arbre devant la maison perché sur la plus basse branche, et j'observais le petit carré de pelouse roussi en dessous de moi. Sans doute que mon père était au travail. Il avait un garage, qu'il ouvrait à 6 heures presque tous les matins, pour n'en revenir qu'à plus de 5 heures presque tous les soirs. Sans doute que ma mère dormait. Elle passait ses journées dans le silence et l'obscurité de leur chambre. Parfois, elle m'appelait pour que je lui apporte de petites choses, un verre d'eau, quelques biscuits. Mais la majeure partie du temps, elle attendait le retour de mon père. Il nous préparait à dîner, et ma mère se traînait enfin hors de son abîme d'obscurité pour se joindre à nous autour de la petite table ronde. Elle lui souriait lorsqu'il faisait passer les pommes de terre. Elle mâchait comme un robot lorsqu'il racontait sa journée d'une voix bourrue. Puis, le dîner terminé, elle allait retrouver les ombres au bout du couloir, sa ration quotidienne d'énergie épuisée. Je faisais la vaisselle. Mon père regardait la télé. 9 heures du soir, extinction des feux. Fin d'une journée comme les autres chez les Léonie. J'avais appris très tôt à ne pas inviter de camarades de classe, et j'avais appris l'importance de me taire. Là, il faisait chaud, c'était le mois de juillet et j'avais devant moi une nouvelle journée interminable. Les autres enfants s'éclataient sans doute en colonies de vacances ou s'éclaboussaient joyeusement dans une piscine municipale. Peut-être que les plus chanceux avaient des parents heureux et rigolos qui les emmenaient à la plage. Moi, j'étais perchée dans un arbre. Une petite fille est apparue. Elle filait sur une trottinette rose vif et ses nattes blondes battaient sous un casque violet foncé. Au dernier moment, elle a levé les yeux et aperçu mes jambes maigrichonnes. Elle s'est arrêtée dans un crissement juste à ma hauteur.
« Je m'appelle Juliana Sofia Ao. Je suis nouvelle dans le quartier. Tu devrais descendre jouer avec moi ?»
Alors c'est ce que j'ai fait. Juliana Sofia Ao avait aussi 8 ans. Ses parents venaient de quitter Harvard pour Framingham. Son père était comptable. Sa mère, femme au foyer, faisait des choses comme tenir la maison et enlever la croûte des sandwichs beurre de cacahuète confiture. D'un commun accord, nous jouions toujours chez Juliana. Son jardin était plus grand avec du vrai gazon. Elle avait une tête d'arrosage petite sirène et une bâche petite sirène pour s'amuser à faire des glissades. Nous pouvions jouer pendant des heures, et ensuite sa mère nous servait de la limonade avec des pailles roses en spirale et d'épaisses tranches de pastèque. Juliana avait un frère de 11 ans, Thomas. Un vrai enquiquineur. Elle avait aussi 15 cousins et des milliards d'oncles et tantes. Les jours de canicule, toute sa famille se réunissait chez sa grand-mère sur la côte au sud de Boston et ils allaient à la plage. Parfois, elle avait droit à un tour de manège et elle se considérait comme une championne du pompon, même si en fait, elle n'avait jamais réussi à le décrocher, mais presque. Je n'avais ni cousin, ni oncle et tante, ni grand-mère sur la côte. En revanche, j'ai raconté à Juliana que mes parents avaient fait un bébé quand j'avais 4 ans. Sauf que le bébé était né tout bleu, que les médecins avaient dû l'enterrer et que ma mère, en rentrant de la clinique, s'était installée dans sa chambre. Parfois elle pleurait en pleine journée, parfois en pleine nuit. Mon père m'avait dit de ne pas en parler. Mais un jour j'avais trouvé une boîte à chaussures cachée derrière sa boule de bowling dans le placard du couloir. Dans la boîte, il y avait un petit bonnet bleu, une petite couverture bleue et une paire de petits chaussons bleus. Il y avait aussi la photo d'un petit nouveau-né parfaitement blanc, avec des lèvres rouges vifs. En dessous de la photo, on lisait « Joseph Andrew Léonie ». Donc j'avais un petit frère qui s'appelait Joey, mais il était mort, et depuis, mon père travaillait et ma mère pleurait. Juliana a réfléchi à la situation. Elle a décidé que nous devions dire une vraie messe pour le petit Joey, alors elle a sorti son chapelet. Elle m'a montré comment enrouler les perles vert foncé autour de mes doigts et dire une courte prière. Ensuite, il fallait que nous chantions, alors nous avons entonné « Entre le bœuf et l'âne gris » parce que ça parlait d'un bébé et que nous connaissions plus ou moins les paroles. Ensuite est venu le moment de l'oraison funèbre. Juliana s'en est chargée. Elle en avait déjà entendu une à l'enterrement de son grand-père. Elle a remercié le Seigneur de prendre soin du petit Joey. Elle a dit que c'était bien qu'il n'ait pas souffert, qu'elle était sûre qu'il s'amusait bien à jouer au poker au paradis et à tous nous regarder depuis là-haut. Ensuite, elle a pris mes mains dans les siennes et elle m'a dit qu'elle compatissait à ma douleur. Je me suis mise à pleurer. De gros sanglots bruyants qui m'horrifiaient. Mais Juliana me caressait le dos. « Là, là !» disait-elle. Ensuite, elle a pleuré avec moi, et sa mère est venue voir ce que nous fabriquions avec tout ce raffut. J'ai cru que Juliana allait tout raconter à sa mère, mais au lieu de ça, elle lui a expliqué que nous avions un besoin urgent de cookies au chocolat. Alors sa mère est descendue nous en faire une fournée. Voilà le genre d'amie qu'était Juliana Sophia O. Vous pouviez pleurer sur son épaule et lui confier vos secrets en toute confiance. Vous pouviez jouer dans son jardin et compter sur elle pour vous donner ses meilleurs jouets. Vous pouviez aller chez elle et être sûr qu'elle partagerait sa famille avec vous. Quand l'accouchement a commencé alors que j'étais toute seule, j'ai imaginé que Juliana me tenait la main. Et quand j'ai enfin tenu ma fille dans mes bras pour la première fois, je lui ai donné ce nom en souvenir de mon amie d'enfance. Juliana, malheureusement, ne sait rien de tout cela. Elle ne m'a pas adressé la parole depuis 10 ans. Parce que si Juliana Sophia Ao est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, j'ai en fin de compte été la pire chose qui lui soit jamais arrivée. C'est parfois comme ça, l'amour. À l'arrière de l'ambulance, l'infirmière m'administrait un soluté par intraveineuse. Elle avait sorti une cuvette juste à temps pour me permettre de vomir encore. J'avais la joue en feu, les sinus gorgés de sang. Il ne fallait pas que je perde pied. J'avais plus que tout envie de fermer les yeux et de laisser le monde s'évanouir. La lumière me faisait mal aux yeux. Les souvenirs s'imprimaient au fer rouge dans mon cerveau. « Dites-moi comment vous vous appelez ?» m'a ordonné l'ambulancière pour m'obliger à me concentrer. J'ai ouvert la bouche. Aucun mot n'est sorti. Elle m'a proposé une gorgée d'eau à essuyer mes lèvres desséchées. « C'est ça, Léonie. » Ai-je enfin réussi à articuler. Quelle est la date d'aujourd'hui, Tessa? L'espace d'une seconde, je n'ai pas pu répondre, aucun chiffre n'apparaissait dans ma tête, et j'ai commencé à paniquer. Je ne voyais que le lit de Sophie vide. Le 13 mars? 2 plus 2? Encore un temps. 4. Marla a grogné, replacé le fil qui transportait le soluté jusqu'au dos de ma main. Sacré cocard. Je n'ai pas répondu. Presque aussi ravissant que les hématomes dont vous êtes couverte. Votre mari aime porter des Rangers? Je n'ai pas répondu. Juste imaginez le visage souriant de ma fille. L'ambulance a ralenti peut-être pour tourner vers le service des urgences. Il ne restait plus qu'à l'espérer. Marla m'a encore dévisagé une seconde. Je ne comprends pas. A-t-elle dit brusquement. « Vous êtes policière, vous êtes formée, vous êtes vous-même intervenue sur ce genre de cas. Vous devez être la mieux placée pour savoir. » Elle s'est reprise. « Enfin, j'imagine que c'est comme ça, pas vrai? Les violences conjugales touchent tous les milieux, même les plus avertis. » L'ambulance s'est arrêtée. 30 secondes plus tard, les portières s'ouvraient et on me sortait à la lumière du jour sur un lit à roulettes. Je ne regardais plus Marla. Je gardais les yeux fixés sur le ciel gris de mars qui filait au-dessus de moi. Dans l'hôpital, il y a eu d'un seul coup beaucoup d'animation. Une infirmière des urgences s'est précipitée à notre rencontre et nous a introduits dans une salle d'examen. Il y avait des formalités à remplir, notamment le sempiternel formulaire qui m'informait de mon droit au respect de ma vie privée. Comme me l'assura l'infirmière, mon médecin ne parlerait de mon cas à personne, pas même à des collègues des forces de l'ordre. Ce serait une violation du secret médical. Ce qu'elle ne disait pas, mais que je savais déjà, c'était que mon dossier médical était considéré comme neutre et pouvait donc faire l'objet d'une assignation à produire de la part du procureur. Autrement dit, tout ce que je pourrais dire au médecin et qui serait consigné dans ce dossier. « Il y a toujours une faille quelque part. Demandez donc à un policier. » Le dossier rempli, l'infirmière passa à la tâche suivante. La veille, j'avais mis un quart d'heure à revêtir mon uniforme. D'abord un slip noir basique, puis un soutien-gorge de sport noir, un maillot de corps en soie pour que la couche suivante, un pesant gilet pare-balles, ne m'irrite pas la peau. J'avais enfilé des chaussettes noires puis mon pantalon bleu marine à liseré bleu électrique. Ensuite, j'avais lacé mes bottes, parce que je savais d'expérience que je ne pourrais plus atteindre mes pieds quand j'aurais enfilé mon gilet. Donc chaussettes, pantalons, bottes, et ensuite retour au haut du corps pour mon volumineux gilet, par-dessus lequel, vu la météo, j'avais ajouté un soupule de la police d'État et mon chemisier bleu clair réglementaire. J'avais dû rajuster le gilet sous le soupule, puis me débrouiller pour rentrer trois couches, maillot de corps en soie, soupule et chemisier, dans mon pantalon. Après quoi, j'avais mis une large ceinture noire pour les maintenir, et j'avais pris mon équipement. Un ceinturon en cuir noir de 10 kilos par-dessus la ceinture de mon pantalon, fixé avec quatre attaches velcro. Ensuite, prendre mon Six Hour semi-automatique dans le coffre-fort du placard et le mettre dans l'étui, sur ma hanche droite. Accrocher mon téléphone portable à l'avant du ceinturon et rentrer mon beeper professionnel dans son étui sur mon épaule droite. Vérifier ma radio sur ma hanche gauche. Contrôler mes deux cartouches de munitions de rechange, la matraque, la bombe lacrymogène, une paire de menottes et le taser. Ensuite, glisser trois stylos plumes dans les pochettes cousues sur la manche gauche. Enfin, cerise sur le gâteau, mon chapeau réglementaire. Je m'arrêtais toujours un instant pour m'observer dans le miroir. L'uniforme de la police d'État, ce n'est pas seulement une allure, c'est une sensation. Le poids de mon ceinturon qui tirait sur mes hanches, le volume de mon gilet pare-balles qui me faisait une poitrine plus plate, des épaules plus larges. Le ruban serré de mon chapeau, bas sur le front, qui jetait une ombre impénétrable sur mes yeux. Se donner de la prestance. Ne jamais leur laisser voir qu'on transpire, chérie. L'infirmière m'a dépouillé de mon uniforme. Elle a enlevé chemisier bleu clair, soupule, gilet pare-balles, maillot de corps, soutien-gorge. Elle a retiré mes bottes, descendu mes chaussettes, détaché ma ceinture, et baissé mon pantalon sur mes jambes avant de faire la même chose avec mon slip. Chaque vêtement était retiré, puis ensaché et étiqueté, pour servir de pièce à conviction dans le dossier que la police de Boston devait être en train de constituer contre moi. Pour finir, l'infirmière m'a enlevé mes clous d'oreilles en or, ma montre et mon alliance. « On ne peut pas porter de bijoux dans le scanner », m'a-t-elle expliqué en me dénudant. Elle m'a donné une blouse d'hôpital et s'en est allée au pas de course avec ses sachets de pièces à conviction et mes effets personnels. Je n'ai pas fait un geste. Je suis juste restée là, meurtrie par la perte de mon uniforme, la honte de ma nudité. J'entendais au bout du couloir une télé qui diffusait le nom de ma fille. Ensuite devait apparaître sa photo, prise à l'école en octobre dernier. Sophie portait son haut à frou-frou jaune préféré. Elle était tournée légèrement de biais et regardait l'appareil avec ses grands yeux bleus et un sourire d'excitation parce qu'elle adorait les photos et qu'elle tenait tout particulièrement à celle-là. La première depuis qu'elle avait perdu ses deux dents de devant et que la petite souris lui avait apporté un dollar tout rond qu'elle avait hâte de dépenser. Mes yeux me brûlaient. Il y a douleur et douleur. Tous ces mots que je ne pouvais pas prononcer. Toutes ces images que je ne pouvais pas me sortir de la tête. L'infirmière est revenue. Elle m'a passé les bras dans la blouse d'examen et m'a roulé sur le côté pour pouvoir la nouer dans le dos. Deux techniciens sont arrivés. Ils m'ont emmenée à toute allure vers le scanner et j'avais les yeux rivés sur le brouillard de dalles de plafond qui filait au-dessus de moi. Enceinte ?
Pardon ?
Vous êtes enceinte ?
Non.
Claustrophobe ?
Non.
Alors ça va se passer comme sur des roulettes.
On m'a fait entrer dans une autre salle, dominée cette fois-ci par une grosse machine en forme de beignet. Les techniciens ne m'ont pas laissé me relever et m'ont transféré directement du lit sur la table d'examen. On m'a demandé de rester totalement immobile pendant que l'appareil tournait autour de ma tête pour prendre des images en coupe de mon cerveau. Un ordinateur compilerait ces radios bidimensionnelles pour créer un modèle en 3D. D'ici une demi-heure, le médecin me donnerait une belle image de mon cerveau et de mes os, où apparaîtraient tout œdème, hématome ou hémorragie. Un jeu d'enfant, à entendre les techniciens. Allongée seule sur cette table, je me suis demandé quel était le pouvoir de pénétration du scanner. Je me suis demandé s'il voyait toutes ces choses que je voyais chaque fois que je fermais les yeux. Le sang qui giclait sur le mur derrière mon mari zébrait le sol de la cuisine. Les yeux de mon mari agrandis par la surprise, lorsqu'il avait littéralement paru voir les taches rouges s'épanouir sur son torse musclé. Brian, qui glissait au sol encore et encore. Moi, debout, au-dessus de lui, qui regardait la lumière se voiler dans ses yeux. « Je t'aime », avais-je murmuré à mon mari juste avant que la lumière ne s'en aille. « Je suis désolée. Désolée. Je t'aime. » Il y a douleur et douleur. La machine s'est mise à bouger, j'ai fermé les yeux et je me suis autorisée un dernier souvenir de mon mari. Ses derniers mots, pendant qu'il agonisait sur le sol de notre cuisine.
« Désolée »,
avait haleté Brian. 3 balles en pleine poitrine.
« C'est ça. Je t'aime encore plus fort. »